of a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission L'Amérique et vous sur VOA Afrique. L'administration Trump qui veut expulser les clandestins des États-Unis, les sans-papiers africains sont dans la crainte. Qu'en pensez-vous? C'est le thème, c'est la question cette semaine qui vous était posée sur Facebook. Vous avez été nombreux à réagir. Vous pouvez continuer à laisser vos commentaires, chers auditeurs, sur notre page VOA Afrique. On suit également cette émission sur notre site voaafrique.com et on attend vos appels en direct. Le numéro toujours le même, le 001 202 619 3140, 001 202 619 3140. Georges Léonard Sagnot derrière la vitre pour prendre vos appels. Pour cette émission évidemment consacrée à la question des clandestins, des sans-papiers ici aux États-Unis, on a le plaisir d'accueillir trois invités ce soir par téléphone ici dans notre studio de Washington. À tout honneur évidemment le protocole, on va d'abord saluer celui qui est l'ambassadeur du Mali ici dans la capitale américaine, j'ai nommé Tiena Koulibaly, bonsoir.
Bonsoir.
On va également saluer le président de la communauté guinéenne de Washington, Salumba Shérif, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Et on va aller à New York retrouver Bakary Tandja, qui est un militant de la cause associative. Il est membre de l'African Services Committee, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, merci d'être avec nous, évidemment, sur VOA Afrique en direct pour parler de cette question qui passionne le débat ici aux États-Unis depuis une semaine, depuis que le département de la sécurité intérieure américain a publié de nouvelles directives pour l'expulsion des sans-papiers. En fait, on s'aperçoit que presque tous les 11 millions de clandestins, c'est une estimation, qui sont présents aux États-Unis, seraient potentiellement expulsables. Dans ces deux directives, pour être précis, le secrétaire à la sécurité intérieure, M. John Kelly, a ordonné aux agents des douanes et de l'immigration d'expulser aussi rapidement que possible tous les clandestins qu'ils trouveraient dans l'exercice de leurs fonctions. Et justement, pour être plus précis par rapport à cette directive, le texte est assez clair puisque le texte dit, et je cite, à de très rares exceptions, le département n'exemptera aucune catégorie d'étrangers expulsables, explique l'administration. Tous ceux qui ont violé les lois d'immigration peuvent faire l'objet de poursuites pouvant aller jusqu'à l'expulsion des États-Unis. Il faut quand même préciser que l'administration Trump définit 7 niveaux de priorité pour ces expulsions de clandestins, à commencer évidemment par ceux qui sont condamnés pour des délits ou des crimes. Ce n'est pas nouveau, l'administration Obama faisait la même chose, mais à la différence, c'est que cette liste inclut aussi ceux qui sont simplement accusés de délits et laisse à la libre appréciation des fonctionnaires l'évaluation du danger posé par un sans-papier. Enfin, on note que le texte maintient les directives qui avaient été prises sous la présidence Obama en protégeant les sans-papiers arrivés enfants sur le territoire américain dans le cadre d'un programme nommé DACA. On va donner évidemment la parole à nos intervenants ce soir. Tout d'abord, monsieur l'ambassadeur du Mali, Tiena Koulibaly, quelle est l'ambiance actuellement dans la communauté malienne? Quel est votre discours? Et vous êtes là pour rassurer, j'imagine. Qu'est-ce que vous dites à vos constituants?
D'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de parler de ce sujet délicat et préoccupant pour nous, parce que ambassade du Mali, la mission que les autorités nous assignent ici est de protéger, d'assister les Maliens qui sont dans les difficultés. Les nouvelles décisions sont donc d'une très très grande préoccupation pour nous. Nous expliquons aux citoyens maliens ce que les décisions sont et nous leur expliquons que lorsque un Malien se trouvera dans les difficultés, nous ferons ce que nous pouvons pour lui. Mais au-delà de ça, nous expliquons aussi, et ça c'est la position officielle des autorités maliennes, le gouvernement du Mali encourage les Maliens à être en situation régulière. Le gouvernement du Mali encourage surtout les Maliens à ne pas se mêler de choses délictuelles ou criminelles. Et nous espérons, malgré tout, que l'administration, la nouvelle, va revenir un peu sur les positions de l'ancienne, à savoir que si expulsion il y a, elle doit porter surtout sur celle de gens qui sont rendus coupables de délits ou de crimes. Le gouvernement malien n'est dans tous les cas pas partant pour protéger les criminels et les gens qui seront coupables de crimes.
Et alors actuellement, monsieur l'ambassadeur, actuellement, combien de Maliens sont peut-être dans les centres de rétention? Est-ce que vous avez déjà un chiffre?
De chiffres, parce que c'est très très changeant en fonction des autorités avec qui nous parlons. Donc, j'ai eu différentes rencontres au cours desquelles j'ai eu des chiffres différents. Je dois dire que, en fait, les Maliens qui sont dans le collimateur et pour lesquels nous avons été saisis par l'administration ne sont pas très nombreux. Mais en tout cas, même s'il n'y a que un, c'est un de trop, et nous nous battons autant que nous pouvons pour amener l'administration à des positions plus généreuses, quoi.
Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre cette émission. On va parler, par exemple, de la communauté sénégalaise, puisqu'on sait que 137 Sénégalais en situation irrégulière aux États-Unis font l'objet d'une mesure d'expulsion. Les intéressés ont épuisé toutes les voies de recours et les services compétents américains et sénégalais discutent de la mise en œuvre de ces mesures. 11 personnes ont déjà accepté leur rapatriement par vols commerciaux. On va écouter, par exemple, Idriss Fall, qui a joint El Hadj Ndao, le consul du Sénégal à New York.
Effectivement, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a pris un communiqué faisant état d'expulsion de Sénégalais des États-Unis au nombre de 137. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est vrai qu'avant, les pays d'Afrique n'étaient pas tellement, disons, intéressés à un chiffre aussi élevé, parce qu'avant, c'était plutôt les pays d'Amérique latine. Mais on voyait toujours les services de l'immigration procéder à des expulsions. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qu'on leur reproche, c'est d'être ici de manière irrégulière. Soit c'est des entrées irrégulières, et ça c'est pour la grande majorité des cas. Il y a d'autres cas aussi, mais vraiment très minimes, de cas d'infraction et de crimes. Et là aussi, des gens qui ont bénéficié de procédures légales. Donc, en tout cas, que nous sachions, on a demandé à ces intéressés, pour la plupart en tout cas, s'ils ont été présentés devant un juge, s'ils trouvent anormal les procédés qui leur a été réservés, mais il n'y a pas de grief à ce niveau. Donc, vous comprendrez que s'il n'y a pas de grief à ce niveau, le consulat général, ou en tout cas le Sénégal, ne peut pas avoir raison de se plaindre d'une procédure.
Est-ce qu'on a idée de combien de Sénégalais vivent illégalement aux États-Unis?
Non, on ne peut pas avoir accès à ça. Ce qu'on peut savoir, c'est combien de Sénégalais à peu près sont aux États-Unis. Bon, on ne peut pas avoir accès à leur statut d'immigration, malheureusement.
Et combien de Sénégalais sont aux États-Unis à peu près?
C'est à peu près entre 80 000 et 100 000 Sénégalais. La grande majorité est à New York, dans le Tri-State Area. Mais aussi, il y a une importante communauté sénégalaise dans le Midwest, dans la zone du Ohio Valley, dans la zone sud vers Atlanta et aussi dans la zone ouest, dans l'État de Texas et aussi en allant vers la Californie.
Est-ce que vous avez reçu des pressions de l'administration Trump pour les expulsions de ces Sénégalais?
Pas de pression particulière. Le contexte, nous le vivons tous, les politiques commencent à changer. Alors là, c'est pas, disons, des pressions ciblées au Sénégal ou en quelques pays que ce soit, mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a une politique qui change, surtout pour ce qui est de l'immigration, et il faudra prendre note et essayer de s'ajuster par rapport à tout ça.
Voilà, El Hadj Ndao, le consul du Sénégal à New York. Vous écoutez VOA Afrique, c'est l'Amérique et vous. On va prendre un autre intervenant en ligne, évidemment. On parlait avec l'ambassadeur du Mali, hein, qui tentait de rassurer les membres de sa communauté. On va poser la question à Saloumba Chérif. Alors vous vous occupez notamment des Guinéens, hein, qui sont ici dans la région de Washington. Est-ce que c'est également la peur parmi vos ressortissants?
Merci bien, monsieur, de m'avoir invité sur les antennes de votre radio. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, on parle tous de l'immigration parce que c'est un problème qui est sous les lèvres de tout le monde aujourd'hui. Il faut se dire la vérité, il y a une peur qui s'est installée dans les communautés immigrantes ici aux États-Unis. Mais je vais parler plus particulièrement de ma communauté guinéenne de DMV, où à l'heure là, nous appelons la communauté à la patience et nous ne voulons pas que les gens se paniquent. Parce que même s'il y a problème, il y a toujours solution. Et raison pour laquelle nous sommes en train de sensibiliser notre communauté, de faire de telle sorte que ceux qui sont en situation régulière et irrégulière ici arrivent à régler leur cas. Nous avons tenu des séances d'éducation pour que nos membres sachent, connaissent leurs droits et devoirs en tant qu'immigrants ici sur le sol américain. Donc, j'ai écouté mes prédécesseurs. Je pense que c'est un problème très sérieux, mais il ne faut pas laisser se paniquer. Mais je pense que toute administration a ses politiques. La nouvelle administration aujourd'hui, nous avons vu, elle a tendance à beaucoup plus renforcer les règles de l'immigration parce que l'administration précédente se concentrait surtout sur ceux qui avaient des records. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les choses sont en train de partir d'une nouvelle direction. Mais moi, l'appel que j'ai à lancer à nos membres, c'est de rester sereins et connaître aussi ses droits et devoirs et savoir ce qu'il faut faire une fois qu'ils sont confrontés à la police de l'immigration.
Alors,
voici ce qu'on est en train de faire dans notre communauté aujourd'hui. C'est surtout l'éducation de nos membres sur leurs droits et devoirs.
Merci, Saloum Bachirif. Alors, on va poser la question à Bakary Tandja. Bakary Tandja, le président américain Donald Trump, qui dit simplement qu'il veut faire respecter la loi, que c'était dans son programme et qu'il a été élu et qu'il applique son programme. Vous, le militant, évidemment, d'African Services Committee, qu'est-ce que vous répondez à cet argument ?
Enfin, nous pensons que, d'abord, je remercie tous ceux qui m'ont précédé pour tout ce qu'ils font pour, en tout cas, répondre d'une manière adéquate à cette situation préoccupante. Ceci étant, personne ne s'oppose à l'application des lois. Tous les pays ont des lois qui doivent être appliquées d'une manière correcte à tout le monde. Bon, le problème qui se pose ici, ce sont des décisions qui affectent gravement la vie d'individus qui sont ici, qui respectent la loi, en dehors du fait d'être illégal ou sans papier. Donc, ça pose des problèmes très graves, des problèmes humanitaires, la dislocation et la désorganisation des familles. Donc, tout ce que nous demandons, c'est une application des lois d'immigration d'une manière juste et humanitaire. Donc cette dimension est extrêmement importante. Comme les précédents l'ont dit, il y a une panique réelle au niveau de la communauté. Bon, je vous donne un exemple. Ce qu'on appelle le programme 287G, qui a existé et que Obama a totalement marginalisé et neutralisé, et qui consistait par exemple à donner mandat à la force de police d'appliquer les lois d'immigration sur l'étendue du territoire américain. Donc ça posait un problème véritable. Bon, premièrement, c'est un problème qui pratiquement criminalisait tous les immigrants. Et en plus, lorsque, avec un programme pareil, la conséquence est très, très grave sur les sans-papiers. Par exemple, un sans-papier qui est victime de crime n'aura pas le courage d'aller porter plainte. Donc, ce qui fait que les sans-papiers deviennent très, très vulnérables. Et en plus, la police se prive d'une source d'information. Nous sommes résidents ici. Les sans-papiers, comme les citoyens, peuvent avoir des informations très, très utiles pour la police, pour assurer, en tout cas, la sécurité de tout le monde. Bon, donc, ça, c'est un exemple. Et en plus de cela, il y a eu un changement notable. Au temps d'Obama, par exemple, un individu qui est pris
dans l'espace de 100 km à partir des frontières et qui est sur le territoire américain pendant 14 jours pour être exposé à la procédure accélérée de déportation. Et avec la nouvelle administration, il y a une extension. D'abord, toute personne qui est sans papier sur le territoire américain pendant 2 ans, qui a résidé ici pendant 2 ans, peut être appréhendée et se voir appliquer la procédure accélérée sur tout le territoire américain. Bon, donc, ce que nous dénonçons en tant qu'activistes, c'est le fait de criminaliser toute cette population. Très souvent, même quand on parle de clandestins, le terme n'est même pas exact. La majorité de ces sans-papiers travaillent et payent les taxes. Parce que même quand on est illégal ici, on peut demander une identification au niveau de l'ARS pour payer ces taxes. Donc, une personne qui paye ses taxes n'est plus dans la clandestinité.
Oui, c'est un détail important. On reste sur VOA Afrique. On va marquer une petite pause et on continue le débat, évidemment, sur notre antenne.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Voilà, on continue cette émission évidemment sur la politique migratoire ici aux États-Unis. Peut-être quelques chiffres avant de donner la parole à notre premier auditeur pour marquer évidemment cette réalité des chiffres qui sont fournis par la sécurité intérieure américaine. L'année dernière, sur les expulsions, 62% des personnes expulsées venaient du Mexique, 14% du Guatemala, 9% du Honduras et 9% évidemment pour le Salvador. On va prendre un premier appel depuis la Côte d'Ivoire qui nous appelle, c'est Adama Tamboura. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Adama, vous avez suivi notre débat avec nos intervenants. Que pensez-vous des décisions de l'administration Trump, finalement, d'élargir le champ des expulsions des sans-papiers ici aux États-Unis?
En tout cas, je pense que Donald Trump, pour moi, Donald Trump doit revoir ses décisions, ça, dans ses décrets. D'expulser les migrants, bon. Interdit la loi qui interdit les pays de ne pas accéder aux États-Unis. Franchement dit, c'est pas bien, c'est pas du tout bien. Il n'a qu'à revoir ça.
Eh bien, écoutez,
lui, ouais. C'est vrai qu'il a ses moyens, il peut bien assurer la sécurité des Américains. Mais après son départ, est-ce que ça va pas créer des ennuis? Vous voyez?
Oui, tout à fait. On va poser la question, peut-être on va retourner vers l'ambassadeur Jenna Koulibaly, l'ambassadeur du Mali ici aux États-Unis. Ambassadeur, je donnais ces chiffres, finalement, presque 86% finalement des personnes expulsées l'année dernière venaient soit du Mexique, soit du Guatemala, du Honduras et du Salvador. Est-ce que finalement les Africains n'ont pas tort de s'inquiéter? Est-ce que finalement, vous le disiez au début, c'est quelque chose de pas nouveau finalement, hein, mais peut-être que les annonces médiatiques en ont effrayé certains?
Oui, bon, les médias nous ont effrayés, mais je ne pense pas que nous soyons vraiment à l'abri, puisque quand on lit les textes, évidemment, nous sommes nous aussi dans le collimateur. Ce que j'espère est que l'Amérique étant le pays des institutions fortes, comme le disait Obama à Accra. J'espère que les institutions américaines elles-mêmes vont faire que l'administration tempère un peu ses positions. Sinon, les statistiques ne nous rassurent pas. Le fait que jusqu'ici, ça ait porté plutôt sur les latino-américains que sur les africains ne sont pas tout rassurantes pour nous. Le nombre de Maliens ici aux États-Unis est très, 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 très largement inférieur au nombre de Mexicains, mais ce pourquoi nous sommes là, c'est les Maliens, parce que nous leur devons assistance et protection, parce qu'ils sont tout simplement des citoyens maliens, mais aussi parce que d'ici, ils aident beaucoup le pays, ils aident leurs parents, ils aident le pays, et pour toutes ces raisons, tant que l'épée de Damoclès pèsera sur eux, nous continuerons à être inquiets.
Alors justement, vous parlez d'épée de Damoclès, un témoignage intéressant ce soir, évidemment, une personne qui se trouve en situation illégale ici sur le territoire américain, mais qui a tenu à témoigner, témoignage anonyme, la voix a été évidemment modifiée pour préserver l'anonymat de cette personne, on écoute.
Je travaille, je paie les taxes. Je n'ai jamais, je touche du bois, je n'ai jamais eu d'antécédent avec les autorités. Même pas avec la police, à plus forte raison, comment dirais-je, le tribunal. J'ai été vraiment déçu parce qu'un pays comme les États-Unis qui demande le respect des droits de l'homme et qui essaie de se battre pour vraiment essayer de que tous les pays observent ces droits-là. Vous ne pouvez pas dire que vous allez aider des gens à l'extérieur quand vous avez certains qui sont là, qui travaillent, qui payent les taxes. Peut-être leur seule faute, c'est de venir et de ne pas sortir. S'ils font comme ils l'ont dit, ce sera comme le bâton de l'aveugle. Ils ne vont pas épargner quelqu'un. Sinon, s'ils veulent faire sincèrement, de la manière en disant que c'est le criminel. Parce qu'on trouve que Obama a déporté plus de gens. Bon, si ça, mais c'est des gens qui ont commis des crimes. Parce que honnêtement, ce n'est même pas possible. Parce qu'on dit depuis combien d'années qu'il y a 11 millions d'illégaux. Moi, je pense que c'est plus que ça. Un État ne peut pas déporter tous ces gens. Et malgré tout, je suis optimiste. Si c'est ce qu'il faut, je suis prêt à rentrer. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Mais comment je vais faire avec les enfants, je ne sais pas. C'est un peu difficile.
Voilà pour ce témoignage sur VOA Afrique. Hein, Bakary Tandja le disait évidemment, hein, ce sont des familles hein, qui se retrouvent menacées. Évidemment, on en parle dans ce témoignage. On va prendre un autre appel en ligne. Richard Zongo qui nous appelle depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors vous avez suivi le débat. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces annonces de l'administration Trump ?
Bon, je pense que la décision que l'administration Trump a prise, je crois que je ne loue pas cette décision que l'administration Trump a prise pour expulser les 11 millions d'immigrants. Je pense que ceux qui se sont immigrés aux États-Unis contribuent tant bien que mal au développement des États-Unis, puisque quand plusieurs personnalités et plusieurs ethnies se retrouvent sur un même point, et ce point focal, c'est les États-Unis, et qu'ils se réunissent vraiment, à vraiment travailler pour vraiment développer l'industrie américaine. Je crois que Donald Trump doit vraiment revoir sa politique immigratoire pour vraiment permettre à ceux-là qui sont allés aux États-Unis de vraiment travailler de sorte à pouvoir encore développer plus les États-Unis. C'est parce que les États-Unis sont composés de plusieurs nationalités qui vraiment ont pris la nationalité américaine et qui ont décidé de travailler pour les États-Unis que les États-Unis sont aujourd'hui ce qu'ils sont et qui occupent la première puissance économique mondiale. Je crois que c'est vu la diversité de ces ethnies-là réunies et qui forment une seule nationalité qui est la nationalité américaine. Là. Je pense que c'est ça qui a vraiment valorisé les États-Unis aujourd'hui. C'est ça qui a contribué vraiment au développement de cette Amérique-là qui est vraiment aujourd'hui, qui fait que toute personne désirant voyager décide de prendre destination les États-Unis pour aller vraiment trouver l'Eldorado et vraiment pour pouvoir s'en sortir. Donc je crois que Donald Trump doit encore revoir sa politique immigratoire vraiment pour vraiment permettre à tous ceux-là qui veulent aller se chercher aux États-Unis de pouvoir le faire sans aucune difficulté, sans vraiment beaucoup de difficultés, à le faire comme si c'était dans leur propre pays.
Merci beaucoup Richard Zongo hein, qui nous appelait. On va peut-être poser la question à Bakary Tandja. On dit, Bakary Tandja, évidemment, que beaucoup d'expulsions ont eu lieu hein, sous Barack Obama, un niveau record. Est-ce vrai ou faux?
Oui, effectivement, c'est vrai. Il n'a fait qu'appliquer les lois qui existaient.
Bon, la différence est que ces déportations étaient essentiellement focalisées sur des personnes qui avaient commis des crimes sérieux. Donc, en tant que défenseur des droits des migrants, les organisations qui défendent les droits des immigrants ne s'opposent pas du tout, en tout cas, à la déportation des criminels. Ce que nous demandons, c'est la protection des droits fondamentaux. Donc, les droits des immigrants s'inscrivent dans le cadre des droits de l'homme d'une manière générale, et c'est également important de reconnaître la dimension humanitaire de leur situation. Avant de finir, je voudrais mentionner un point. La stratégie que le gouvernement est en train d'utiliser, c'est la désinformation à travers laquelle il est en train de peindre la communauté des immigrants comme des criminels. Et cette information est totalement fausse et infondée. Et selon, en tout cas, l'analyse des données par American Community Survey de 2010, en gros, 1,6% des immigrants mâles âgés de 18 à 29 ans sont incarcérés, et comparativement à 3,3% des Américains. Bon, ouais. Donc, cette stratégie...
Bakary Tandja, vous l'entendez, pardon de vous interrompre, hein, mais évidemment, vous l'entendez derrière moi, l'émission qui touche à sa fin. On va remercier Saloum Bachirif, le président de la communauté guinéenne de Washington, Bakary Tandja d'African Services Committee à New York et l'ambassadeur du Mali ici à Washington, Tiena Koulibaly. Merci pour votre participation. Georges Léonard Sagnon était à la mise en onde, Mr. Tarawale était à la console, Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique.